إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de la récitation et la lecture des sourates du juz de la partie Qad Sami'a. Nous en sommes arrivés à sourate Al-Hashr, le rassemblement ou l'exode, qui est une sourate de 24 versets et une sourate médinoise. Nous allons tout d'abord réciter les 11 premiers versets et donner une traduction et une explication, une exégèse en langue française résumée des sens contenus dans cette première partie de cette sourate. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى a dit dans le sens de ces versets, du verset 1 au 10, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah, c'est lui le tout-puissant, le sage. C'est lui qui a chassé de leur maison les mécréants des gens du livre pour le premier rassemblement. Vous ne pensiez pas qu'ils en sortiraient, de même que s'imaginaient que leur forteresse les protégerait contre Allah. Mais Allah les atteignit par où ils ne s'attendaient pas. Et il jeta l'effroi dans leur cœur. Ils démolirent leur maison de leurs propres mains et celle des croyants. Tirez-en une exhortation, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Si Allah n'avait pas décrété leur exil, il les aurait châtiés ici-bas et dans l'au-delà. Le châtiment du feu leur est destiné. Ceci, car ils se sont opposés à Allah et à son messager. Et quiconque s'oppose à Allah et à son messager, Allah se montrera envers lui dur en punition. Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé sur pied, c'est avec la permission d'Allah afin qu'il humilie les transgresseurs. Pour ces prises de guerre, pour ces butins, provenant de leurs biens qu'Allah a accordés à son messager, vous n'avez lancé au combat ni chevaux ni chameaux, mais Allah permet à ses messagers de triompher de qui il veut, car Allah est omnipotent. Les prises de guerre qu'Allah accorde à son messager, aux dépens des habitants des cités, reviennent à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis. Nous avons établi ce partage afin que les prises de guerre ne soient pas dévolues aux seuls riches d'entre vous. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Craignez Allah, car Allah est dur en punition. Ces biens sont pour les pauvres qui ont émigré de la Mecque vers Médine, qui ont été chassés de leur demeure et privés de leurs biens, qui recherchent la grâce et l'agrément d'Allah, et qui portent secours à la religion d'Allah et à son messager. Ce sont eux les véridiques. Ils reviennent également aux pauvres parmi ceux qui étaient établis sur la terre d'Islam et ancrés dans la foi avant eux. Ils aiment ceux qui émigrent vers eux, ne ressentent en leur cœur aucune jalousie pour ceux qu'ont reçu ceux qui ont émigré, et ils les préfèrent à eux-mêmes malgré leur propre pauvreté. Ceux qui sont préservés de leur propre avarice sont les bienheureux. Ils sont également destinés à ceux qui sont venus après eux et qui disent « Seigneur, pardonne-nous » ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ne suscite en nos cœurs aucun ressentiment envers les croyants. Seigneur, tu es clément et miséricordieux. Cette sourate, Al-Hashr, qui est une sourate révélée à Médine, est appelée aussi la sourate Banu Nadir. Banu Nadir, c'était une grande tribu juive qui habitait en périphérie de Médine lors de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. D'ailleurs, plusieurs tribus juives étaient venues habiter à Médine. Pourquoi ? Car dans leur écrit, il était dit que le prophète qu'ils attendaient allait venir dans cette ville remplie de palmiers et de dattiers. Donc, ils savaient déjà quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, que c'est lui qu'ils attendaient. Mais ils l'ont rejeté car il n'a pas suivi leur passion et car il était un arabe et il n'était pas parmi les leurs. Pourtant, ils disaient auparavant à chaque fois qu'ils avaient des disputes et des guerres avec les autres tribus, « Attendez, vous allez voir, quand notre prophète va venir, Allah va nous donner la victoire sur vous par son aide. » Et quand il est arrivé, ils l'ont rejeté, alors qu'ils l'ont reconnu et qu'ils le connaissent aussi bien qu'ils connaissent leurs propres enfants. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Baqara, et nous avons déjà expliqué cela dans Surat al-Baqara. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation, puis émigra à Médine, les juifs de Banu al-Nadir refusèrent de croire en lui, à l'instar des autres juifs. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, il scella un pacte avec toutes les tribus juives qui étaient voisines de Médine. 6 mois après la bataille de Badr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alla chez les Banu al-Nadir pour leur demander de l'aider dans l'acquittement du prix du sang des hommes qui furent tués par Amr ibn Umayyah al-Damri. Ils lui dirent « Nous ferons tout ce que tu veux, ô Abul Qasim » qui était la kunya du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. « Reste ici en attendant que nous te réglions ta requête. » Puis ils s'isolèrent. Ils s'isolèrent alors loin des regards et Shaytan, Satan, leur suggéra de comploter pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ils se dirent les uns aux autres, « Qui d'entre vous va prendre cette meule et la lui jeter sur la tête pour lui fracasser le crâne ?» Le plus scélérat d'entre eux, une personne nommée Amr ibn Jahsh, leur dit, « C'est moi qui le ferai. » Mais Sallam ibn Mushkim les mit en garde en ces termes, « N'en faites rien. Par Allah, il sera tout de suite informé de vos desseins. En faisant cela, vous violerez le pacte qui existe entre lui et nous. » En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé par son seigneur de ce que les juifs de Banu Nadir tramaient contre lui. Il se leva à la hâte et partit vers la ville de Médine, suivi de ses compagnons. Une fois arrivé à Médine, ils lui dirent « Tu t'es levé sans que nous nous en apercevions ». Il leur apprit alors ce que les juifs avaient tramé et manigancé. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur envoya un message dans lequel il était dit « Sortez de Médine et ne demeurez plus avec moi. Je vous donne un délai de 10 jours. Passez ce délai, celui d'entre vous que je trouve à Médine le paiera de sa vie. » Ils restèrent quelques jours à faire les préparatifs du départ, avant que l'hypocrite Abdullah ibn Ubay ibn Saloul leur envoya un message où il leur dit « Ne quittez pas vos demeures. J'ai avec moi 2000 hommes qui entreront avec vous dans vos forteresses pour mourir en vous défendant. En outre, les Banu Qurayza, qui sont une autre tribu juive de Médine, vous assisteront de même que vos alliés parmi les Ratafan. Leur chef, Huyay ibn Akhtab, abusé par ces paroles, envoya un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il l'informa qu'ils avaient décidé de ne pas quitter la ville et de faire ce que bon lui semblait. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons glorifièrent Allah et partirent pour les combattre, partirent à leur rencontre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna l'étendard à Ali ibn Abi Talib. Les juifs se fortifièrent dans leur citadelle et se mirent à tirer des flèches et des pierres sur les musulmans. Les Banu Qurayza se désolidarisèrent des Banu Nadir. Et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, de même, il les a trahis, ainsi que leurs alliés de Ratafan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les assiégea donc, puis il ordonna de couper leurs palmiers et de les brûler, avant qu'il ne lui envoie dire qu'ils étaient prêts à quitter la ville. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam leur imposa certaines conditions, à savoir sortir leurs personnes et leurs familles en emportant avec eux que ce que pouvaient porter leurs chameaux, à l'exception des armes. Il fit saisir leurs biens et leurs armes. Les terres des Banu An-Nadir furent mises à la disposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour parer aux aléas et aux vicissitudes du temps et pour l'intérêt des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'imposa pas de quin sur ces terres parce que c'était Allah qui lui avait permis de les conquérir. Quant aux juifs de Banu Qurayza, ils furent aussi expulsés à Khaybar avec leur chef. Parmi les armes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur fit saisir, il y avait 50 cottes de mailles, 50 casques en métal et 340 épées. Tel est le récit de cette expédition, comme l'ont rapporté les historiens. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé cette sourate en rappelant que tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre célèbre la louange de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, le purifie de tout ce qui ne sied pas à sa majesté et l'adore en se soumettant à sa majesté, car il est le Tout-Puissant qui a soumis toutes choses et à qui rien ne résiste ou n'est difficile. Il est le sage, subhanahu wa ta'ala, dans sa création et sa disposition de ses créatures. Il ne crée rien qui soit vain et ne légifère rien qui ne soit avantageux pour les créatures. Il ne fait que ce qu'implique sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah décrète est fait avec sagesse. Que l'on comprenne ou que l'on ignore cette sagesse. Car notre sagesse et notre compréhension est limitée par rapport à la sagesse infinie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui englobe toute chose. Il en est ainsi de cette victoire qu'il accorda à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sur ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et qui font partie de Banu An-Nadir. Lorsqu'ils trahirent son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est le cas des juifs tout le temps, qui trahissent les pactes, qui ne respectent jamais aucun pacte. Et Allah lui donna la victoire en les expulsant de leur demeure et de leur pays auquel ils s'étaient habitués et qu'ils ont aimé. Leur expulsion est considéré comme le premier revers et exode qu'Allah leur fit subir par la main de son prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ils partirent vers Khaybar, qui est une ville plus au nord de l'Arabie. Khaybar. Le noble verset indique en outre qu'ils auront une autre expulsion. Cette deuxième expulsion a eu lieu en effet lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les expulsa de Khaybar avant que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu n'en expulse le reste. Allah Ta'ala dit dans les premiers versets: vous ne pensiez pas, ô vous les musulmans, qu'ils s'en iraient de leur forteresse en raison de leur fortification et de leur inaccessibilité. De même que pensaient qu'ils seraient protégés contre Allah par leur forteresse. C'est-à-dire que leur forteresse les leurrèrent au point de croire que personne ne pouvait les prendre d'assaut et en venir à bout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est venu à bout de leur forteresse, car aucune forteresse ou citadelle, si forte et si puissante soit-elle, ne résiste à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa puissance et son pouvoir. C'est pour cela qu'il a dit: mais Allah les atteignit par où ils s'y attendaient le moins, c'est-à-dire de la direction et de la porte par laquelle il ne pensait pas qu'il serait surpris. À vrai dire, il jeta l'effroi dans leur poitrine, dans leur cœur, c'est-à-dire la grande terreur, qui est une des grandes armes du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Une arme devant laquelle ni le nombre, ni les équipements, ni la force, ni la rigueur ne peuvent résister. Ils s'imaginaient que leur forteresse était inexpugnable et imprenable. Mais celui qui ne met pas sa confiance en Allah n'est jamais fort, et celui qui cherche un abri en dehors d'Allah, cet abri sera la cause de sa perte. C'est ainsi qu'un ordre divin descendit sur leur cœur, en y enlevant toute force et toute fermeté, et en y mettant de la faiblesse, de la lâcheté et de la défaillance. Ils perdirent alors la détermination et la volonté de résistance qui se retournèrent contre eux-mêmes. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit dans le sens « Au point qu'ils démolirent à l'aide des croyants leur demeure avec leurs propres mains. » C'est-à-dire qu'ils ont conclu un accord avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, stipulant qu'ils emporteraient ce que leurs chameaux pourraient porter. Ils se mirent alors à partir de ce moment-là à démonter leurs toits, leurs portes, ce qui amena les croyants à démolir leur demeure et leur forteresse. À cause de leur iniquité et de leur ruse, ils furent la cause de leur propre perte. Puis Allah appelle les croyants à méditer. Méditez cette leçon, vous qui êtes doués d'intelligence, c'est-à-dire à la clairvoyance aiguë et à l'intelligence complète. Cet événement est de nature à faire comprendre l'attitude d'Allah envers les opposants à la vérité, ceux qui suivent leur passion, mais qui ne peuvent être protégés par leur puissance, ni être à l'abri dans leur forteresse. Lorsque l'ordre d'Allah survient et qu'ils doivent assumer les conséquences de leur comportement, il y a là matière à réflexion. Ce verset invite à la réflexion en comparant une chose à une autre chose similaire, en usant du raisonnement par analogie et en réfléchissant à ce que contiennent les règles juridiques comme signification et dessein sage qui sont à la base de la raison et de la réflexion. Ce faisant, la raison s'amplifie, l'intelligence s'illumine, la foi augmente et à la clé, on arrive à comprendre mieux les choses. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que ces juifs n'ont pas subi tout le châtiment qu'ils méritaient et qu'Allah a été indulgent envers eux. En effet, s'il ne leur avait pas prescrit l'exode avec son décret qui ne saurait être changé ou détourné, ils auraient subi une autre forme de châtiment et d'avilissement en ce bas monde. Cependant, bien qu'ils aient été épargnés du châtiment rigoureux dans ce bas monde, il n'en demeure pas moins que le châtiment du feu les attend dans l'au-delà, un châtiment dont seul Allah connaît la rigueur. Qu'ils n'aillent donc pas s'imaginer que leur châtiment est expiré et qu'ils ne subiront plus de supplice, car ce qu'Allah leur a préparé dans l'au-delà est plus grand et plus rigoureux encore. En outre, ces gens-là ont manifesté leur hostilité et leur opposition à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam en se rebellant contre eux, en les combattant et en leur désobéissant. Or, telle est l'attitude d'Allah tabaraka wa ta'ala envers ceux qui se rebellent contre lui. Quiconque se rebelle contre Allah, Allah est rigoureux dans son châtiment. Dans la mesure où les Banu Nadir ont reproché au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans le fait d'avoir coupé les palmiers et les arbres en prétendant qu'il s'agissait là d'un acte de dépravation et en trouvant un prétexte pour dénigrer les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle que le fait de couper des palmiers ou leur maintien, tout cela découle de sa permission et de son ordre dans le but de confondre les pervers. Puisqu'il vous a permis de couper leurs palmiers et de les brûler par châtiment et avilissement pour eux dans ce bas monde, afin que soit connue leur incapacité totale à préserver leurs palmiers qui sont l'objet de leur force. Telle était la situation des Banu Nadir et comment Allah les a châtiés dans ce bas monde. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à qui reviennent et à qui passeront leurs biens et leurs objets en disant « Les biens pris à l'ennemi » et qu'Allah a accordé à son messager, c'est-à-dire des biens pris au Banu Nadir, vous, ô musulmans, n'avez engagé, c'est-à-dire vous n'avez mobilisé, rassemblé et regroupé ni chevaux, ni chameaux pour vous en emparer. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas fatigués pour les obtenir. Il n'y a pas eu de bataille engagée, ni par vous-même, ni par vos montures. Bien au contraire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a jeté l'épouvante dans les cœurs de vos ennemis et ses biens sont venus à vous sans aucun effort de votre part. C'est pour cela qu'il a dit, mais Allah, mais qui il veut de ses messagers au pouvoir, car Allah est omnipotent. Son omnipotence est telle que rien ne s'oppose à lui et personne ne devient puissant sans qu'il ne le décide et qu'il ne le veuille, subhanahu wa ta'ala. El-Fay, selon la définition du El-Fay, par les jurisconsultes, il s'agit de ce qui est pris à juste titre aux mécréants, sans bataille ni combat, comme ces biens qu'ils ont laissés en s'enfuyant à l'arrivée des musulmans. Il est appelé butin, prise de guerre, parce qu'il est passé des mécréants qui ne le méritent pas aux musulmans qui le méritaient. La règle générale régissant le butin, comme l'a mentionné Allah tabaraka wa ta'ala, est la suivante. Le butin qu'Allah a accordé à son messager aux dépens des habitants de la cité, que ce soit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou après lui au profit de ceux qui sont en charge des affaires de sa communauté, c'est-à-dire les dirigeants des musulmans. Ce butin sera réparti entre Allah et son messager, les proches, les orphelins, les indigents et les voyageurs. Ce verset est semblable à cet autre verset qui se trouve dans Sourate Al-Anfal. Et sachez que quel que soit le butin dont vous vous êtes emparé, le cinquième en revient à Allah et à son messager, ainsi qu'à sa parenté, aux orphelins, aux indigents et aux voyageurs. Ainsi donc, le butin doit être partagé en cinq parts. Un cinquième pour Allah et son messager, c'est-à-dire qu'il doit être consacré aux besoins des musulmans dans tous les domaines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prenait ce qu'il avait besoin pour vivre lui et sa famille pour un an, et le reste il le partageait pour les besoins des musulmans en général, autre que ceux qui sont cités dans les catégories ici. Un autre cinquième pour les proches parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Banu Hashim et les Banu Abdul Muttalib, où qu'ils soient, femmes ou hommes. Si les Banu Abdul Muttalib sont concernés par ce partage avec les Banu Hashim, à l'exclusion du reste des Banu Abdul Manaf, c'est parce qu'ils ont participé avec les Banu Hashim dans la quarantaine des environs de la Mecque, où les Quraychites les assignèrent à un embargo sévère. Les Banu Abdul Muttalib se solidarisèrent avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux autres tribus. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils, en parlant des Banu Abdul Muttalib, ne m'ont jamais quitté, ils ne m'ont jamais quitté ou ils ne m'ont jamais délaissé, que ce soit dans l'époque anté-islamique ou dans l'islam. Il faut savoir que la sagesse, que une partie de ce butin revienne au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses descendants et sa famille n'ont pas le droit à la zakat. Elle est interdite pour eux. Elle est interdite. La zakat, si aujourd'hui tous les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui existent, ils n'ont pas le droit de prendre la zakat, même s'ils sont pauvres. Mais on doit leur donner de l'argent du commun des musulmans ou quand il y a des batailles, une part du butin. Après, les savants ont divergé s'il n'y a rien à leur donner à part la zakat. Est-ce qu'il est permis en cas de nécessité de leur donner ou non? Ça, c'est une autre question. Nous, on parle à la base. À la base. Donc voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala leur a déterminé une part du butin. Car il est interdit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour sa famille d'accepter la zakat. Puis, un autre cinquième est destiné pour les indigents parmi les orphelins, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de père et qui ne sont pas majeurs. C'est ça un orphelin. Celui qui a perdu son père avant la puberté. Tout enfant qui a perdu son père avant la puberté est un orphelin. Qu'il ait perdu son père seul ou son père et sa mère. Un autre cinquième est destiné aux pauvres en général. Et un autre cinquième aux voyageurs étrangers qui sont loin de chez eux et qui ont besoin d'argent. Allah Ta'ala a prescrit ce partage et limité le butin entre ces catégories afin qu'il ne soit pas dévolu aux seuls d'entre vous qui sont riches. En effet, s'il n'avait pas fait ce partage, le butin aurait été accaparé par les riches et les forts et rien ne resterait aux faibles et aux impuissants. Cela donnerait lieu à des injustices dont seul Allah connaît les conséquences. En outre, la conformité à l'ordre d'Allah et à sa loi implique des avantages innombrables. C'est pour cela qu'Allah a ordonné cette règle générale et ce principe fondamental en disant « Ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » Ceci englobe aussi bien les principes de la religion que les questions subsidiaires. Il implique aussi son aspect apparent et caché. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apporte doit être appliqué par les croyants sans aucune contestation de leur part. Car ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prescrit comme règle est pareil à ce qu'Allah prescrit comme règle. Car il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation émanant d'Allah. Nul n'a le droit, la permission ou l'excuse de transgresser cette règle. Et il n'est pas permis de faire passer la parole d'un autre sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne de s'imprégner de sa crainte révérentielle avec laquelle sont comblés les cœurs et les âmes dans ce bas monde et dans l'autre, et qui est la cause du bonheur éternel et du succès immense. A contrario, son abandon est la cause du malheur éternel et du châtiment permanent. Il a dit à cet effet, subhanahu wa ta'ala, dans le sens « Et craignez Allah, car Allah châtie sévèrement. » Il châtie sévèrement ceux qui délaissent la piété et préfèrent suivre leur passion. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala mentionne la sagesse et la raison qui ont motivé ce partage du butin au profit de ceux qu'il a déterminés en précisant ce qu'ils méritent. Il s'agit des émigrés qui ont abandonné tout ce qui est aimé à leurs yeux et auquel on est accoutumé comme demeure, pays, amis, bien-aimés et richesses par amour d'Allah et de son messager et volonté de faire triompher sa religion. Ces gens-là sont les sincères dans leur amour qui œuvrent selon leur foi et dont la foi est attestée par leurs bonnes œuvres et les actes dévotionnels difficiles, contrairement à ceux qui prétendent être croyants sans attester leur foi par le combat au service d'Allah, l'émigration et les autres actes dévotionnels. Il s'agit aussi des Ansar. Après les Muhajirin, les exilés, les Ansar, c'est-à-dire les Aous et les Khazraj, qui ont cru en Allah et en son messager, de leur plein gré, par amour et de leur propre choix, qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont protégé contre tous ses ennemis, qui ont établi la demeure de l'émigration et de la foi jusqu'à ce qu'elle soit devenue le refuge et l'abri des croyants, des émigrés et des musulmans, lorsque tous les pays étaient des lieux de guerre, des lieux de polythéisme et de méfaits. Les muhajiroun, les émigrés, ne cessèrent d'arriver chez les Ansar à Médine jusqu'à ce que l'islam se fortifiât et se répandit peu à peu en gagnant les cœurs par la science, la foi et le Coran, et en faisant la conquête des pays par la bonne parole et l'épée. Parmi les belles vertus de ces gens-là est qu'ils accueillent les émigrés avec joie. Ces Ansar, les gens de Médine, ils ont accueilli ces émigrés avec joie, en raison de leur amour pour Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, ils aimèrent les bien-aimés d'Allah et aimèrent ceux qui font triompher la religion d'Allah. Car ils ont aimé pour Allah, se sont alliés pour Allah, ont détesté pour Allah et ont pris à partie pour Allah. Et ceci est l'anse la plus solide de la foi. Ceci sans ressentir la moindre jalousie, la moindre envie pour ce que ces derniers recevaient. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas envieux vis-à-vis des émigrés, des muhajirines, pour ce qu'Allah leur avait donné comme faveur et qu'il les a distingués par des qualités et des vertus dont ils sont dignes. Cela est la preuve de la pureté de leur cœur et de l'absence de tout mauvais ressentiment, jalousie ou animosité en eux. C'est là la preuve que les émigrés, al-muhajiroun, sont meilleurs que les ansar. Car Allah les a cités en premier lieu et a précisé que les ansar ne ressentent aucune envie pour ce que les émigrés ont reçu, ce qui montre qu'Allah a donné aux émigrés ce qu'il n'a pas donné aux Ansar ni à d'autres. C'est parce qu'ils ont réuni aussi entre l'assistance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'émigration. Puis Allah tabarak wa ta'ala, en parlant des Ansar, a dit, allant même jusqu'à se priver en faveur des émigrés, malgré leurs propres besoins et indigences. Cela signifie que parmi les qualités des Ansar, grâce auxquelles ils ont dépassé autrui, et avec laquelle ils se sont distingués des autres, il y a le fait qu'ils préfèrent qu'ils font passer les autres devant leur propre personne. Il s'agit là de la forme la plus parfaite du don de soi, qui consiste à préférer les autres sur soi, par les richesses ou autres, même si on en a besoin soi-même. Ce type de comportement ne peut émaner que d'une âme aux nobles qualités, pure et aimant Allah, qu'elle préfère à ses propres passions et désirs. Il en est ainsi du récit de cet Ansari. Cet homme parmi les Ansar qui a accueilli un invité et au sujet duquel ce verset fut révélé. Et il n'avait rien. C'était l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a invité chez lui. Il n'avait que la nourriture pour sa femme et ses enfants. Alors, il a devancé cette nourriture pour l'inviter et il a demandé à sa femme et à sa femme d'éteindre la lumière et de faire semblant avec les enfants de manger. Il a auparavant couché les enfants en leur faisant boire juste de l'eau chaude comme une soupe, mais il n'y avait rien dedans tellement il n'avait pas. Et la nourriture, il l'a gardée pour cet invité. Allah a parlé de ce sacrifice qu'il a fait dans ce verset et des autres Ansar qui sont comme lui. Et sa femme et ses enfants ont passé la nuit le ventre vide, lui, sa femme et ses enfants, pour honorer cet invité qui était l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui reçoit ce don immense de la préférence des autres à sa propre personne sera prémuni contre sa propre avarice. Heureux les gens qui savent se prémunir contre leur propre avarice. Prémunir son âme contre l'avarice implique de la prémunir contre l'avarice dans tout ce qu'Allah a ordonné. En effet, lorsque l'homme se prémunit contre sa propre avarice, son âme se conformera alors à tous les ordres d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il appliquera avec soumission, obéissance et sérénité. A contrario, son âme se détournera de tout ce qu'Allah a interdit, même s'il s'agit de quelque chose de désirable pour l'âme. En outre, son âme deviendra généreuse et dépensera avec libéralité dans la voie d'Allah pour obtenir sa satisfaction. Dès lors, elle peut atteindre le succès et le salut. Quant au fait de ne pas se prémunir contre sa propre avarice, mais d'être éprouvé par l'avarice dans le bien, c'est là le principe du mal et sa matière. Les deux premières catégories sont représentées par les nobles compagnons et les imams éminents qui ont obtenu comme vertu, antécédents et qualités, ce qui leur a permis de dépasser ceux qui sont venus après eux et de rejoindre ceux qui les ont précédés. Ils sont devenus les élites des croyants, les maîtres des musulmans et les chefs des pieux. Il leur suffit comme mérite que ceux qui viennent après eux les prennent comme exemple et guide. C'est pour cela qu'Allah a parlé de ceux qui viennent après eux et qui leur doivent tant en disant, dans le sens, dans le verset 10, dans le dernier verset que nous allons expliquer, Inch'Allah, une part ira également à ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les émigrés, les Ansar, en disant, à titre de conseil pour eux-mêmes et pour l'ensemble des musulmans, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Il s'agit là d'une invocation globale qui concerne tous les croyants parmi les compagnons, avant et après eux. Ce qui est un des mérites de la foi, à savoir que les croyants se soutiennent mutuellement, qu'ils s'aiment, qu'ils ne portent pas de rancœur envers les croyants qui les ont devancés, mais bien au contraire, ils les aiment, ils les prennent comme modèles. Ils invoquent Allah, subhanahu wa ta'ala, en leur faveur. Ils tirent avantage les uns des autres, en invoquant les uns pour les autres en vertu de leur association dans la foi, qui implique des liens entre les croyants. Et avec cela, ils portent l'amour dans leur cœur envers les autres croyants. Et ils ne cessent d'invoquer pour ceux qui les ont devancés dans la foi. C'est pour cela qu'Allah a mentionné dans cette invocation le rejet du ressentiment peu ou prou des cœurs. Cela étant, l'absence de ressentiment dans le cœur implique l'existence de son opposé, à savoir l'amour et les liens de fraternité entre les croyants. La fraternité mutuelle et les conseils entre eux, ainsi que d'autres choses qui font partie des droits des croyants. Si Allah a décrit ceux qui viennent après les compagnons comme étant des croyants, c'est parce qu'Allah a dit dans le Coran, en décrivant leurs paroles, quand ils ont dit « qui nous ont devancés dans la foi ». Cette parole montre l'association dans la foi et prouve qu'ils sont les émules des compagnons dans les principes de la foi. Il s'agit ici des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, des gens de la Sunna et du groupe des musulmans, qui eux seuls méritent cette description. Il les a décrits aussi comme reconnaissant leurs péchés, demandant pardon pour eux et pour leurs frères, et faisant l'effort de se débarrasser de la haine, de la rancœur et du ressentiment de leur cœur envers leurs frères dans la foi, car leur invocation de cela implique ce que nous venons de dire et contient l'amour des uns pour les autres et vice-versa. C'est-à-dire que l'un d'eux aimait pour son frère ce qu'il aimait pour lui-même et invoquait en sa faveur, qu'il soit présent ou absent, vivant ou mort. Ce noble verset indique que ces choses-là font partie de l'ensemble des droits des croyants les uns envers les autres. Ensuite, ils conclurent leur invocation par la mention de deux noms parmi les noms d'Allah, indiquant la perfection de la miséricorde d'Allah et l'intensité de sa bienveillance et de sa compassion envers eux. Une compassion qui implique son assistance dans la voie de l'accomplissement des droits d'Allah et des droits de ses serviteurs. Ces trois catégories de personnes composent cette communauté. Ce sont elles qui méritent le partage du butin, dont la distribution englobe tous les domaines de l'islam. Elles en sont dignes. Et avec ceci, on va s'arrêter pour aujourd'hui, Inch'Allah, et nous expliquerons la suite de cette surah, de cette sourate, dans le prochain cours, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم